Jean-Pierre Petit, donc le président des Cahiers Verts de l'économie, est avec nous pour nous accompagner. Et c'est une sacrée semaine quand même, Jean-Pierre. Voilà, j'agrégeais. Alors, très franchement, c'est vrai qu'on devait parler de François Hollande, mais quand on se dit qu'on a traversé là une faillite bancaire, la première vraie faillite bancaire organisée en Europe, et donc qui s'est soldée hier, un record historique sur l'indice large de la bourse de New York, hein, le Standard & Poor's 500. Ça, c'est vraiment le baromètre de l'économie américaine. Et puis donc, quelques éléments quand même très intéressants avancés par François Hollande hier soir, même si beaucoup d'entre vous vont juger qu'ils sont anecdotiques. Juste comme ça, mais je me dis que le monde va très très vite, Jean-Pierre. Le monde va très très vite. Hein.
Bah d'abord sur le S&P 500, la bourse monte historiquement. Hein, donc faut pas s'étonner. Le PIB nominal est à son top historique aux États-Unis.
La bourse monte historiquement, mais il me semble qu'on traverse aussi une crise historiquement grave, Jean-Pierre.
Et que
Allez-y.
Je suis pas totalement. On traverse une crise historiquement grave. Effectivement, on a eu la principale crise d'après-guerre. Mais s'il y a bien une zone plutôt rassurante dans le G4 du monde riche, hein, c'est-à-dire États-Unis, Japon, Royaume-Uni, zone euro, c'est plutôt les États-Unis.
Voilà.
Qui ont plutôt gagné. Enfin, ça ne veut pas dire que tout est parfait, il y a l'ajustement de la dette fédérale, etc. Mais l'Amérique se porte bien. Et l'essentiel, quand même, encore du chiffre d'affaires de S&P 500 se réalise aux États-Unis ou en Amérique du Nord. Donc.
C'est quoi la clé de ce dynamisme? C'est quoi la clé de cette capacité à rebondir? Malgré tout, comme vous dites, malgré les séquestres, malgré l'ensemble de l'incapacité du personnel politique.
C'est une bonne politique économique d'abord.
Mais il n'y en a pas de politique économique.
Mais bien sûr que si. Le quantitative easing, c'est une très bonne politique économique. C'est pas la panacée.
Politique
on a déjà
financière
discuté.
Alors, hein, politique financière.
Non, bah c'est la politique monétaire. La politique
monétaire.
Et ça a bien marché. La baisse du dollar, ça fait 10 ans que ça dure. C'est efficace. Alors il y a d'autres choses. Je suis d'accord. Il y a le dynamisme entrepreneurial. Il y a la mobilité, la flexibilité américaine. Ça c'est indéniable. Le poids de la recherche développement, c'est 31% de la recherche développement mondiale. Enfin bref.
L'Amérique. C'est intéressant. Non, pas. Enfin bref, ça me plaît, moi, Jean-Pierre. Allons-y.
L'Amérique vit encore très très bien. Il y a le dynamisme des États fédérés qui font tout pour réattirer les investissements et le capital et la main d'œuvre qualifiée. Enfin bref, il y a la gouvernance américaine marche mieux d'une manière générale. Donc c'est relativement satisfaisant. Moi, j'avais pris un pari durant la grande crise. J'avais dit que l'Amérique pourrait faire 2. Elle fait 2-1 pour l'instant, mais
la croissance, vous voulez dire.
La croissance économique, oui. Absolument. Elle fait 2-1 depuis la reprise qui date quand même de juillet 2009, hein, parce que j'entends souvent la reprise est récente, mais elle a quand même presque 4 ans la reprise économique aux États-Unis.
Hein. Jean-Pierre, voilà. Est-ce que ça veut dire alors là, la question elle est fondamentale, elle est technique mais fondamentale. Quantitative easing, mesdames, messieurs, c'est la planche à billets américaine qui tourne à plein, qui tourne à fond sous l'impulsion du patron de la Réserve fédérale, de la Banque centrale américaine qui s'appelle Ben Bernanke.
Absolument.
Est-ce que ça veut dire que si on avait fait la même chose en Europe, on serait aujourd'hui sur les mêmes éléments de reprise?
Non, on serait pas au même rythme, car notre croissance potentielle est quand même plus faible. Mais il aurait fallu le faire. Et il faut encore le faire.
Ouais, c'est ça.
C'est le message des élections italiennes. C'est le message de Chypre. Ce sera le message des tensions qui rentrent la France et l'Allemagne après le 22 septembre. C'est le sens de l'histoire. De toute façon.
Date des élections allemandes, hein, le 22 septembre.
Le 22 septembre.
Qui est pour vous la date la plus importante de l'histoire européenne des 6 mois qui viennent. Voilà.
Oh, des 6 mois qui viennent, oui. Oui, voilà. Absolument. Oui, il faut le faire. De toute façon, vous savez bien que c'est l'Amérique qui décide. C'est l'Amérique qui dit ce qu'il faut faire, enfin qui détermine la politique monétaire mondiale. La BCE a tort de ne pas suivre la Réserve fédérale. La Banque d'Angleterre le fait. La Banque du Japon vient de se réveiller, là, il y a 4 mois.
Ouais.
Enfin, la Banque du Japon, disons, le gouvernement japonais, plus exactement, vient de se réveiller. Donc il faut aller dans ce sens-là, car c'est nécessaire. Nous sommes toujours en pression déflationniste. Je ne dis pas que c'est génial, je ne dis pas que c'est la panacée,
mais
il faut le faire.
Alors allons-y. Rentrons dans le dur de ce qu'a dit hier François Hollande, parce que finalement, il cherche une solution. Il cherche une solution. Il n'a pas la Banque centrale, et s'il avait notre épargne. J'ai comme ça un petit truc qui s'est allumé. Alors, une annonce, une seule. Elle est anecdotique. Vous aurez la possibilité, alors c'est 4 millions de Français, hein, sur 16 millions d'actifs dans le privé, je crois, à peu près, Jean-Pierre. 4 millions de Français. C'est quand même des masses importantes, hein, parce que le chiffre, par exemple, de la participation distribuée on a que les chiffres 2010. C'est 7,5 milliards d'euros, hein. 7,5 milliards d'euros de participation distribuée. Donc, on peut avoir sans doute plusieurs milliards réinjectés dans le système. Donc, la possibilité de dépenser 20 000 euros de cette participation dans les 6 mois qui viennent. Derrière, il y a une autre annonce peut-être encore plus importante, du moins une promesse. Mais vous allez voir, il a du mal à la faire, François Hollande. Stabilité fiscale. Plus de hausse d'impôts. Écoutez-le, c'était hier à la télévision.
Il n'y aura aucune autre augmentation d'impôts. Ni de taxes. Alors, pour financer la sécurité sociale, nous en reparlerons. Je parle de l'État.
Alors, quelques exemples précis de dépenses. Et là, on ne parle pas forcément de l'État, mais peut-être des budgets sociaux. Les allocations familiales, est-ce que vous êtes décidé à en priver les ménages les plus riches ou à les réduire pour les ménages les plus riches ou bien à les fiscaliser?
Il y a 2 milliards de déficit. C'est-à-dire que nous n'équilibrons plus depuis plusieurs années la branche famille. Les recettes sont inférieures aux dépenses de 2 milliards. Donc on fera des économies. Mais il y a deux principes que je vais fixer tout de suite pour que chacun soit bien au clair. Il n'y aura pas de fiscalisation des prestations familiales parce que c'est absurde. On ne va pas donner d'un côté, reprendre de l'autre. Non.
Et une réduction ?
Deuxièmement, on va garder l'universalité des prestations familiales, des allocations familiales, pour être précis. Mais que les plus hauts revenus aient les mêmes allocations familiales que les plus bas, non.
C'est dur. Ça sera... C'est dur en France de dire, il veut dire plus de hausse d'impôts, mais il fait son boulot, David Pujadas. Il dit, mais attendez, allocation familiale, ah oui, là, c'est vrai, ça va bouger. On n'a pas fait mais retraite, ah oui, là aussi, ça va bouger. Il a du mal, hein,
Jean-Pierre. Et puis moins de dépenses, ça veut dire moins d'argent pour pas mal de gens aussi.
Moins de dépenses, alors tout ce qui nous a sorti sur moins de dépenses, c'est la centralisation des achats de l'État. C'est fait depuis 10 ans, hein, monsieur le président de la République, la centralisation des achats de l'État. Vous savez, il y a même un organisme très efficace qui s'occupe de la centralisation des achats de l'État aujourd'hui, et ça a été renforcé en 2008 après l'ère GPP. Jean-Pierre, les bras vous en tombent hein, sur cette histoire. Centralisation des achats de l'État et choc de simplification. Voilà les deux grosses annonces. Oui, non, allez-y.
Le choc de simplification, c'est pour les entreprises. Mais là, c'est quand même dingue. Enfin, je veux dire, il sait bien. Enfin, je pense qu'on lui a dit que les 0% pour la croissance française, ça va être difficile cette année. Hein. Donc les 3,7, c'est pas garanti. Hein.
3,7 de déficit public,
ouais,
vous voulez dire.
Ben, moi, à mon avis, ce sera plutôt 4. Hein. Donc il va devoir se présenter aux Français.
Parce qu'on ne tiendra même pas 0% pour
non,
vous.
Non, je pense pas.
On sera en récession à la fin.
Je souhaite me tromper, mais je ne pense pas. Je pense qu'on sera en moins négatif. Et plutôt vers 0,4, moins 0,4, moins 0,5, un truc comme ça. Donc, à moins que tout aille bien, le prix du pétrole baisse, ouais, ou des choses comme ça, mais franchement, ça m'étonnerait. Hein. Donc, il va se présenter aux Français, à Angela Merkel, en disant « J'ai fait des super efforts, vous pensez ? Je suis passé 4,5 à 4. » Voilà. Non, ça marche pas.
Sur une année.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de sauver un peu de croissance à court terme, là. Il nous fait du court-termisme en débloquant les plans d'épargne.
La participation.
Bah, bien sûr. C'est un truc à déjà utiliser, ça.
Alors, attendez, Jean-Pierre, j'ai un truc, moi. C'est-à-dire que, il y a un chiffre. Qu'il faut tous qu'on ait en tête quand même. On est riche, on est un pays riche, Jean-Pierre.
6 000... On a 37 000 dollars par habitant, les États-Unis ont 49 000.
6 000 milliards d'euros d'épargne financière. 6 000 milliards d'euros d'épargne financière. Ce taux d'épargne ne cesse d'augmenter depuis 2008. Il a juste baissé là au quatrième trimestre 2012, mais il ne cesse d'augmenter. Est-ce qu'en donnant de la sécurité fiscale, en essayant de nous convaincre qu'il n'y a plus de hausse d'impôts, en réinjectant justement une partie de cette épargne dans la consommation, on a l'impression que c'est peut-être le pari qu'il commence à faire aujourd'hui, ben on n'a pas un petit peu de ce quantitative easing là que la Banque Centrale Européenne ne veut pas nous donner?
C'est vrai que c'est une contrainte, la zone euro, parce qu'on a la croissance potentielle la plus faible d'après-guerre, ouais. On a la dette publique et privée la plus élevée d'après-guerre, ouais. Et on a l'architecture institutionnelle la plus rigide et contraignante de l'histoire. Donc il a trois équations à résoudre, notre ami
voilà,
François.
Bah oui.
Non mais c'est vrai, c'est un vrai sujet. Donc par contre, stabilité fiscale, bah non, puisque là, il vient de décider un truc qui remet en cause l'architecture fiscale. On veut rétablir le long-termisme et il nous fait un truc hyper court-termiste. Dans la tradition française de débloquer de l'argent qui sert, hein, l'argent. Enfin, je veux dire, l'épargne salariale, derrière l'épargne salariale, il y a des investissements. Enfin, il y a une utilisation de cette épargne. Il faut quand même pas l'oublier.
Absolument.
On a l'impression que ça sert à rien.
Et puis elle reste dans l'entreprise, elle, en plus.
Et bien sûr. Donc, franchement, non. Là, il y avait autre chose à faire. Il y avait un diagnostic clair à faire. Il y avait un cap à donner. Il y avait une direction. Il y avait un leadership à assurer et à assumer. Il le fait pas. Il le fait pas. C'est ça le problème.
Il y a le poids des contraintes, c'est-à-dire qu'il a parlé d'Angela Merkel, il a parlé l'ensemble de ses éléments.
Il faut qu'il arrête.
Il y a un poids de contraintes.
Il a un
gouvernement italien. Oui.
Il faut qu'il arrête d'être le énième roi feignant de la Ve République.
Voilà, c'est dur ça.
Mais si, mais bien sûr que si. Vous savez, quand De Gaulle est mort le 9 novembre 70, on avait la télé en noir et blanc. Enfin, je pense que vous étiez né, moi aussi. On était petits.
On était petits. Ouais,
on était petits. Ben, moi, j'avais l'impression que son remplaçant, il était beaucoup moins bon, quoi, plus mauvais.
Pompidou, vous rigolez?
Non, mais il était moins
c'est
bon.
C'est pas le dernier président modernisateur qu'on ait eu.
Non, mais il était moins bon que De Gaulle, à toute une série de points de vue.
Ouais.
Et moi, j'ai cette impression à chaque élection présidentielle. Il y a une loi sous la Ve République, c'est que.
Ouais,
ce
mais là,
de...
c'est votre nostalgie gaullienne et gaulliste, je sais pas là. Je
mais
sais
nostalgie,
pas si...
j'en sais rien, mais alors, non, mais je parle même de la gouvernance. Il y avait vraiment une.
Jean-Pierre, à 7h12, faire le bilan du gaullisme économique et du pompidolisme économique, c'est peut-être exigé beaucoup de nos auditeurs, téléspectateurs.
Non, mais c'est dit. La situation est grave. Je veux dire,
en termes de gouvernance, c'est ça l'idée.
Mais en termes de gouvernance.
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qui fait l'écart entre les nations, enfin le creusement des écarts de performance entre les nations, si vous regardez Paul Kennedy, John Hobson, etc. C'est les différences de gouvernance. Et ça, il y a un vrai sujet en France.
Il est 7h12.